Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui prouve bien que la noblesse anglaise et la jet set française ne font pas forcément très bon ménage. Le Lord Anthony Ashley Cooper, 10e comte de Shaftesbury, est né le 22 mai 1938 à Londres d'un père qui faisait naturellement partie de la noblesse britannique et d'une mère française. Il a grandi comme tout noble britannique, les meilleures écoles du monde, tout ce qu'il peut souhaiter et tout ce qu'il peut acheter est à lui. Il est proche du prince, Charles, et il est décrit comme quelqu'un avec vraiment un cœur d'artichaut. Il est généreux, il fait des cadeaux à tout le monde, il tombe amoureux très facilement, ce qui causera sa perte malheureusement. Et il est très fragile psychologiquement, il a tendance à déprimer facilement, ce qui en fait provoque un tournant dans sa vie quand sa mère meurt en 1999. En effet, le Lord devient alcoolique, il commence à faire la java un peu partout, et surtout il démissionne de la Chambre des Lords pour pouvoir se concentrer sur sa vie de jet-setter, qui consiste à aller dans les bars à houses où il rencontre effectivement des travailleuses du sexe, et c'est là qu'il rencontre ce qu'il pense être l'amour de sa vie, Jamila Mbarek. Lorsqu'il rencontre Jamila en septembre 2002, le Lord a 64 ans et Jamila en a 41. Le Lord est fou amoureux d'elle, mais vous vous doutez bien que Jamila, elle en a plus après sa moula qu'après son cœur. Donc, 2 mois après leur rencontre, elle lui fait croire qu'elle est enceinte, et en parfait gentleman, le Lord l'épouse aux Pays-Bas. Et plus tard, elle lui dit tout simplement: j'ai fait une fausse couche. Donc voilà, dans les histoires criminelles impliquant ce qu'on appelle une veuve noire, c'est assez classique pour elle de faire croire qu'elles sont enceintes et ensuite dire: j'ai fait une fausse couche, etc. Puis à obtenir la fameuse bague au doigt qui assure un avenir radieux financièrement parlant. Mais au fond, qui est Jamila Mbarek? Alors, je vais vous dire ça tout de suite, c'est une tuniso-marocaine qui vient d'une famille très dysfonctionnelle. Elle a vécu avec un père qui était tellement violent qu'il a estropié 2 de ses propres enfants. Donc, naturellement, elle a fui dès qu'elle a pu. Et comme elle était très jolie, elle a commencé à vivre de ses charmes, passant d'un homme riche à l'autre. Alors, personne ne sait si elle était vraiment travailleuse du sexe ou pas, ça n'a jamais été prouvé catégoriquement, mais en tout cas on sait que elle se met en couple seulement avec des hommes riches et pompe leur argent autant que possible, quoi. Elle finit par se marier avec un homme d'affaires hollandais, mais à 28 ans, après avoir eu 2 enfants avec lui d'ailleurs, elle quitte complètement cette vie et se remet à faire la jet-setteuse, la socialite, et à passer d'un homme à un autre, comme avant. Donc, une fois qu'elle est mariée à Anthony, Jamila reste une parfaite michto et le convainc de s'installer à Cannes, où il lui achète un appartement valant presque 1 million d'euros. Et en plus de ça, il lui donne aussi un moulin dans le Gers qui en vaut 300 000, ou 30 000, je ne sais plus, et une rente de 7000 euros par mois. Donc là, c'est le jackpot pour Jamila. Elle est heureuse comme tout, hein. Elle va pouvoir se payer absolument tout ce qu'elle veut sans avoir à travailler une seconde, ce qui est un peu mon rêve aussi, je ne veux pas vous le cacher. Ce qui fait que je suis un peu jalouse. Pourquoi? Quand est-ce que ça va me tomber dessus, ce genre de truc? Bref, revenons à nos moutons. Il devient de plus en plus apparent pour Anthony que Jamila l'a épousé seulement pour son argent. Et donc du coup, Anthony recommence à déprimer et se remet à boire et il se remet à fréquenter le monde de la nuit, hein, la jet set de la Côte d'Azur. Et c'est là qu'il rencontre Nadia Horsch, une mère de trois enfants, une hôtesse dont il tombe follement amoureux encore, parce que il a un cœur trop fragile, Anthony, vous voyez. Il voit une femme qui est un peu gentille avec lui, direct, il pense à la bague, tu vois. Le pauvre. D'ailleurs, il offre un appartement à Nadia avant même de l'épouser. Et il annonce à Jamila qu'il souhaite divorcer et lui propose un dédommagement de 400 000 euros en plus du moulin du Gers et de l'appartement de Cannes. Mais Jamila, elle aime pas la défaite et 400 000 euros et deux propriétés, c'est clairement pas assez pour elle. Et c'est là que le Lord disparaît. Le 6 novembre 2004, Anthony disparaît à Cannes et il faut plusieurs jours à ses proches pour s'en rendre compte parce que Jamila n'a tout simplement pas signalé la disparition. Elle dit que ça arrive souvent à Anthony de s'en aller pour plusieurs jours pour aller faire la fête. Et ce mensonge serait parfaitement passé si elle n'avait pas ajouté que le jour de sa disparition, il était dans un état lamentable et puait des excréments. Là, elle a forcé, clairement. Parce que, déjà, c'est un noble. Deuxièmement, il est riche, donc je vois pas pourquoi il irait se rouler dans du caca, donc voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce qui l'a poussé à dire ça, mais en tout cas, vraiment un mytho 0 sur 20. Jamila devient rapidement la principale suspecte, non seulement à cause de son mytho décalé retourné là, mais aussi parce que au moment où tout le monde se met à rechercher Anthony, elle part rejoindre son frère à Munich. Elle se bat en mode bonne chance, on n'est pas ensemble. Et son état mental se détériore rapidement au point où elle finit par être internée dans un hôpital psychiatrique. Les enquêteurs disent Balek de ta dépression et placent son téléphone sur écoute. Et c'est ainsi qu'en février 2005, ils arrivent à enregistrer un appel entre Jamila et son avocat où elle sous-entend qu'elle sait ce qui est arrivé à son mari. Donc ni une ni deux, les enquêteurs ils disent hop 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 hop, tu vas venir à la maison, on va en discuter. Donc il interroge, il la confronte pardon, à cet enregistrement et elle commence à avouer. Selon elle, son frère Mohamed aurait tué le Lord après une bataille d'ivrogne et se serait débarrassé du corps. Bon, maintenant qu'il est sur la sellette, il serait temps de s'interroger un peu sur Mohamed, le frère de Jamila. Donc, Mohamed Mbarek a 3 ans de moins que sa sœur et il est très proche d'elle. Malgré ça, c'est un homme violent et il est endetté puisqu'il est, il vit au-dessus de ses moyens, alors qu'il est simplement salarié à Munich, hein, c'est pas un PDG, mais il veut vivre un peu la même vie que Jamila. Du coup, elle l'aide à payer ses dettes et l'accueille souvent dans son appartement de Cannes. Une fois face aux enquêteurs, il nie tout en bloc et il déclare qu'il était en Allemagne au moment de la disparition. Il arrive à prouver ça notamment avec son billet d'avion. Mais les enquêteurs ne se laissent pas berner et découvrent assez facilement qu'il est rentré en Allemagne en avion, effectivement, mais que juste après, il est reparti à Cannes en voiture. Donc non seulement ça prouve que il y avait une intention d'aller à Cannes pour voir le Lord, mais aussi ça montre une préméditation, ce qui contredit la thèse de l'accident. Ça va pas empêcher Mohamed de confirmer la version de Jamila, comme quoi il a tué le Lord par accident et s'est débarrassé du corps. La seule chose correcte qu'il fait, au moins, c'est de dire où est le corps, justement. Et c'est ainsi que le 6 avril 2005, le corps du Lord Anthony Ashley Cooper, 10e comte de Shaftesbury, et retrouvé abandonné dans une décharge sauvage dans les environs de Cannes. Naturellement, après ça, Jamila et Mohamed sont incarcérés et un micro est placé au parloir de Jamila qui, de toute évidence, ne sait pas la fermer. Donc, naturellement, oh, je dis beaucoup naturellement aujourd'hui. Effectivement, du coup, Jamila se balance elle-même en disant à sa sœur qu'elle a donné 150 000 euros à Mohamed, ce qui, encore une fois, appuie plus la thèse de la préméditation que de l'accident. Mais elle dira plus tard que non, ça n'a rien à voir, c'était juste pour aider Mohamed, etc. Mais un autre élément vient plutôt confirmer encore une fois cette thèse de la préméditation, puisque avant le meurtre, elle est allée à Londres pour se renseigner sur les testaments de son mari. Aïe. Le procès de Jamila et Mohamed commence en mai 2007 à Nice, et ils maintiennent tous les deux que la mort du Lord était un accident, et que Jamila avait passé 150 000 euros à son frère, par hasard, par coïncidence, hein, à la même période, mais que voilà, ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, le comportement de Jamila est très désinvolte. Elle arrive à son procès habillée très, très jet-setement, disons, au point où son avocat dira que c'est l'une des pires accusées qu'il a eues de sa carrière. Ouf. Bref, les deux, au départ, sont condamnés à 25 ans de prison, mais la sentence de Jamila est réduite à 20 ans en appel. On n'a pas de nouvelles depuis du frère et de la sœur, donc je présume qu'ils sont encore incarcérés et Jamila ne devra pas tarder à sortir puisque sa sentence a été donnée il y a 14 ans cette année, donc dans 6 ans normalement elle est libre. Je ne sais pas du coup si elle reprendra sa vie comme elle avait fait avant en passant d'un homme riche à un autre ou si elle ira tout simplement travailler comme caissière à Lidl, mais en tout cas on croise les doigts pour qu'elle devienne caissière, hein, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur Twitter, @ElsaETC ou sur murderwinecheese.com. En attendant le prochain épisode, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Je vous souhaite de ne pas choper la grippe cette année et de trouver un billet de 10 par terre. Sur ce, salut!